Il est 19h30 en temps universel. Madame, monsieur, bonsoir. Un grand merci de nous rejoindre pour suivre le monde aujourd'hui que vous propose Léo Afrique. Au micro, Jacques Aristide. Les titres que nous avons développés en ce mardi 7 mai 2024. À Abidjan, le chef de l'État sénégalais veut dissiper les incompréhensions dans le bloc ouest-africain de la CEDEAO. Le Sénégal, qui veut également lutter contre l'opacité du secteur de la pêche avec une liste des bateaux autorisés. Présidentielle au Tchad, l'Union européenne déplore la mise à l'écart d'observateurs. Le président américain Joe Biden promet de combattre la progression redoutable de l'antisémitisme. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a souhaité dissiper les incompréhensions au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, lors d'une visite ce mardi à Abidjan, où il s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. En janvier, le Burkina, le Niger et le Mali, trois pays ouest-africains dirigés par des régimes militaires issus de coups d'État, avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO, qu'ils accusent d'être inféodés à la France et de ne pas assez les soutenir dans la lutte anti-djihadiste. Je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir, a déclaré Bassirou Diomaye Faye lors d'un point de presse aujourd'hui. La CEDEAO est un outil formidable d'intégration que nous gagnerons à préserver, a ajouté le chef de l'État au pouvoir depuis début avril. Par ailleurs, professionnels de la pêche et défenseurs de l'environnement saluent la publication d'une liste des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux du Sénégal, où la pêche est un secteur stratégique mais opaque. C'est un grand pas pour la transparence sur la gestion des ressources halieutiques au Sénégal, a déclaré Aliouba, responsable de la campagne Océan pour Greenpeace Afrique. Les licences accordées aux armateurs industriels, notamment européens et chinois, sont un grief ancien et constant. Le président Bassirou Diomaye Faye a promis de rétablir une souveraineté bradée, selon lui, et de réévaluer les accords de pêche. La pêche fait vivre directement ou indirectement environ 600 000 Sénégalais pour une population d'environ 18 millions d'après l'ONU. Pour protester contre le maintien de la fermeture des frontières du côté du Niger, le Bénin bloque l'importation du pétrole nigérien. Le point avec Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Le gouvernement béninois bloque l'embarquement du pétrole nigérien au Bénin. La décision prise lundi 6 mai a été notifiée à l'ambassadeur de Chine au Bénin et à la société de gestion du pipeline. Une mesure de protestation contre le maintien de la fermeture des frontières du côté nigérien à la station de Semen, point de chute du pipeline d'environ 2000 km entre les deux pays. Quelques 90 000 barils de pétrole sont chargés par jour. Pourtant, sous prétexte de présence française au nord Bénin, le Niger a maintenu ses frontières fermées. La posture du Niger constitue une situation incohérente, affirme une source proche du gouvernement béninois qui salue la suspension qu'elle qualifie de belle décision qui préserve ainsi l'honneur du peuple béninois. Au sein de la population, on craint le retour du bras de fer entre les deux pays. Au total, le pipeline traverse 5 départements, 17 communes et 152 villes et villages. Il devrait rapporter au Bénin environ 490 millions de dollars, soit 300 milliards de francs. CFA de recettes fiscales sur 20 ans. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
L'Union européenne a déploré ce mardi au Tchad la mise à l'écart de 2900 observateurs de la société civile qui nuit selon elle à la transparence de l'élection présidentielle de la veille, mise en doute par l'opposition et des ONG internationales. Ces dernières avaient déjà émis des doutes sur sa crédibilité et la transparence d'une élection qu'elle jugeait au diapason de l'opposition, jouée d'avance en faveur du général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans. À la mort de son président de pair. La présidentielle, censée mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire, le mettait face notamment dans un duel inédit à un ex-opposant, Succé Masra, rallié à la junte et nommé premier ministre par le général le 1er janvier. En Côte d'Ivoire, 13 personnes impliquées dans un trafic international de cocaïne ont été condamnées aujourd'hui à 10 ans de prison. Les 13 individus de différentes nationalités devront également payer chacune 50 millions de francs CFA d'amende, soit un peu plus de 82 000 $. Parmi eux figurent un élu d'un conseil régional et un commissaire de police ivoirien, César Ouattara et Edouso Karamoko. L'Espagnol Miguel Ángel Devesa, cerveau des opérations, a également été condamné à verser environ 98 millions de dollars de dommages et intérêts à l'État ivoirien. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, est en Libye pour une visite axée sur la coopération bilatérale. Des rencontres avec des dirigeants des deux camps rivaux qui se disputent le pouvoir sont au menu de son agenda. Alexandrine Rolugnon.
C'est la deuxième visite en Libye de Giorgia Meloni depuis sa prise de fonction. Accompagnée d'une délégation ministérielle, elle s'est entretenue peu après son arrivée avec le chef du gouvernement basé à Tripoli, Abdelhamid Deiba, selon des sources officielles. Après Tripoli, Meloni doit se rendre à Benghazi pour rencontrer le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Les ministres italiens signeront avec leurs homologues libyens des déclarations d'intention sur des projets de coopération, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement. Ces accords s'inscrivent dans le cadre du plan Mattei qui préconise un rapport de coopération avec les pays africains en les aidant à développer leurs ressources naturelles. Giorgia Meloni avait plaidé le 17 avril pour une nouvelle approche à l'égard de l'Afrique, notamment sur le dossier migratoire, lors d'une visite en Tunisie, pays voisin de la Libye et l'un des principaux points de départ de migrants vers l'Europe.
Les secouristes redoublent d'efforts ce mardi pour retrouver 47 ouvriers piégés dans les décombres d'un immeuble en construction qui s'est effondré la veille à George, sur la côte sud-africaine, et dans lequel 6 personnes ont déjà péri d'après le dernier bilan des autorités. Ils sont là-dessous depuis plus de 24 heures désormais. C'est déjà long, a déclaré le premier ministre provincial Alan Wind lors d'un point de presse dans l'après-midi. Rappelant que le standard international pour une opération de sauvetage s'étend sur 3 jours. Il estimait que cette deuxième journée est critique pour retrouver des survivants. Toujours en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a condamné un spot de campagne du principal parti d'opposition, DA, en vue des législatives du 29 mai, montrant un drapeau du pays avec sa riche symbolique multiraciale mise à feu. En ce qui concerne l'incendie du drapeau, même dans une publicité politique, il s'agit d'une trahison, a déclaré le chef de l'État lors d'une visite dans la province de Limpopo. Il est méprisable qu'un parti politique puisse, alors qu'il cherche à s'exprimer, brûler le symbole de notre unité, le symbole de notre existence en tant que nation, a-t-il ajouté. Notre drapeau représente des libertés et la paix durement acquises grâce aux luttes historiques contre l'injustice, a également déclaré le bureau de M. Ramaphosa dans un communiqué séparé. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a appelé ce mardi le Soudan du Sud à retirer ses troupes dans la région d'Abyei, disputée avec le Soudan, mettant en garde contre le risque d'alimenter les tensions dans la région. Nous sommes très inquiets concernant la présence de forces de sécurité du Soudan du Sud dans le sud d'Abyei depuis octobre 2022, y compris le déploiement de troupes additionnelles des forces de défense du Soudan du Sud ayant eu lieu fin mars et début avril de cette année, a déclaré Jean-Pierre Lacroix devant le Conseil de sécurité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président des États-Unis, Joe Biden, a condamné ce mardi la montée féroce de l'antisémitisme en Amérique et dans le monde lors d'une cérémonie tenue à Washington en mémoire des victimes de l'Holocauste. Nani Talani.
Nous courons le risque que les gens ne connaissent pas la vérité, a déclaré M. Biden à propos des horreurs de l'Holocauste lorsque 6 millions de Juifs ont été systématiquement tués par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs. Cette haine continue d'habiter le cœur de trop de gens dans le monde, a-t-il ajouté. Les remarques de M. Biden interviennent alors que des manifestations pro-palestiniennes secouent les campus universitaires à travers les USA et dans le monde entier. Certaines comportent des chants antisémites et des menaces à l'encontre d'étudiants juifs et de partisans d'Israël. Il n'y a pas de place sur un campus américain, n'importe quel endroit en Amérique, pour l'antisémitisme, les discours de haine et les menaces de violence, de quelque nature que ce soit, a martelé M. Biden. Le président démocrate s'efforce aussi de trouver un équilibre entre son soutien à Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre et ses efforts pour protéger la vie des civils à Gaza.
Également dans l'actualité, la communauté internationale se dit inquiète face à l'offensive d'Israël à Rafah dans la bande de Gaza. Un dirigeant du Hamas a averti que les pourparlers autour d'un projet de cessez-le-feu dans la bande de Gaza représentent la dernière chance pour obtenir la libération des otages qui y sont retenus. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Écho avec Jean-Roger Bion.
Amazon a lancé ce mardi 7 mai 2024 son service de vente en ligne en Afrique du Sud. La compagnie américaine de commerce en ligne prend ainsi pied dans un marché dominé par des acteurs locaux dont la plateforme Take a Lot, créée en 2011 par le conglomérat Naspers. Au Togo, les crédits accordés par les institutions de microfinance ont progressé de 6,5% au quatrième trimestre 2023. À l'échelle de l'UEMOA, l'encours des crédits a augmenté de 125,3 milliards de francs CFA, soit une progression trimestrielle moyenne de 5,1% pour atteindre un total de 2 561,1 milliards de francs CFA. Au Kenya, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds pour rénover les routes et ponts endommagés par les inondations créées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays pendant des semaines et qui ont causé plusieurs centaines de morts. La mobilité est devenue pénible dans certaines régions du pays avec le niveau des eaux qui ont couvert plusieurs routes.
Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Basketball Africa League, après un jour de repos hier, la conférence Sahara a repris les hostilités ce mardi à Dakar.
Les Rivers Hoopers du Nigeria ont dominé les Tunisiens de l'US Monastir 84 à 63 pour conforter leur place de leader de cette conférence du Sahara avec 3 victoires en 3 matchs. Dans l'autre rencontre, le club hôte l'AS Douane du Sénégal qui a réussi un énorme match dimanche face à Monastir affronte les Rwandais d'APR à la Dakar Arena. Pour rappel, ces 4 équipes sont en lice pour 2 tickets qualificatifs directs pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali, au Rwanda.
Ici, en NBA, les playoffs se poursuivent. Minnesota étouffe Denver.
Les Timberwolves ont réussi une démonstration de force sur le parquet du champion Denver pour un succès 106 à 80 qui leur permet de mener 2 à 0 dans la série. Après avoir corrigé Phoenix 4 à 0 lors du premier tour, Minnesota, qui ne compte qu'une seule finale de conférence en 35 ans d'existence, n'a toujours pas perdu un match de playoff avant le match 3 vendredi à domicile. Dans l'autre rencontre, Jaylen Brownson a compilé 43 points, 6 rebonds et 6 passes décisives pour permettre aux New York Knicks de s'imposer face aux Indiana Pacers 121 à 117 lors du premier match de la série.
Toujours ici en NBA, Victor Wembanyama désigné rookie de l'année.
C'est une première pour un Français, Victor Wembanyama, âgé de 20 ans, drafté en numéro 1 par les San Antonio Spurs en juin 2023, décroche ainsi un premier trophée. Si les résultats collectifs n'ont pas été au rendez-vous avec la 14e place sur 15 à l'ouest des Spurs, la première saison du géant français 2m24 a été réussie sur le plan individuel lors de ses 71 des 82 rencontres de sa franchise. Wemby a affiché en moyenne 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives et 3,6 contres, devançant le pivot d'Oklahoma City, Chet Holmgren. Il succède ainsi au joueur du Magic d'Orlando, Paolo Banchero.
Et en Europe, on connaîtra ce soir le premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.
Pour rejoindre Wembley et la finale tant convoitée, le Marocain Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain sont dos au mur au Parc des Princes, contraints de renverser une nouvelle fois la situation face à Dortmund. Après le revers du match aller 1 à 0, les hommes de Luis Enrique devront l'emporter d'au moins un but pour jouer la prolongation et plus s'ils veulent décrocher une qualification sans passer par des tirs au but. 4 ans après la finale perdue à Lisbonne contre le Bayern Munich, les Parisiens pourront s'appuyer sur la préparation mentale qui avait fonctionné au tour précédent. Au vu de leur performance à Barcelone 4-1, ça sera le dernier match en Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes au Parc pour leur superstar Kylian Mbappé.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce mardi 7 mai 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Unir le parti au pouvoir au Togo a largement remporté les élections régionales du 29 avril après sa victoire écrasante aux législatives tenue le même jour. L'Union pour la République a décroché 137 sièges sur les 179 mis en jeu lors du scrutin régional d'après des résultats provisoires. L'opposition condamne un hold-up électoral tout en appelant à se réinventer après sa lourde défaite alors que le président Fornia Simbe vient de promulguer la nouvelle constitution qui fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Pour un décryptage, j'ai joint à Lomé Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine.
Le fait que le président ait proclamé la nouvelle constitution signifie que l'on est arrivé à la fin du processus de décentralisation qui avait été engagé en 2017 à travers les réformes institutionnels et constitutionnels qui ont précédé les élections de 2018 et de 2020. Et là, c'est le parachèvement de tout cela avec cette élection et la promulgation de la nouvelle constitution qui font entrer le pays dans une nouvelle ère.
Les résultats maintenant connus du double scrutin législatif et régional ont-ils redessiné la carte politique togolaise?
Oui, les résultats des législatifs et des régionales ont complètement redessiné le paysage parce que l'opposition parlementaire qui était, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, a été complètement balayée. Elle n'est plus présente. On n'a plus d'UFC, l'Union des forces des changements. On n'a plus de PDP. On n'a plus non plus le NET. Ce sont les forces qui se sont battues dans les années 90, lors de la conférence nationale, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et cela montre à la fois que l'on a un peu perdu dans le renouvellement de l'élite politique et surtout que même au niveau des discours, beaucoup de choses n'ont pas changé. Et donc, c'est un gros chantier qui s'ouvre avec aujourd'hui, malheureusement, les mêmes acteurs du passé qui devront probablement se renouveler afin de renouveler l'offre politique que représente la Ve République au Togo.
L'opposition a-t-elle perdu deux fiefs qu'elle détenait pendant des années et des années?
Oui, pendant très longtemps, on a eu l'impression que le pays était coupé en deux, que le nord du pays était acquis à l'ancien parti, le RPT, le Rassemblement du Peuple Togolais, auquel a succédé UNIR, l'Union pour la République, et généralement, les meilleurs scores du RPT et de UNIR se faisaient entre les plateaux et le nord du pays. Aujourd'hui, on a vu à la fois le Grand Lomé et Anéro tomber dans l'escarcelle de UNIR, ce qui est une grande première sur le plan historique. Cela ne s'est jamais produit jusqu'à présent. En plus de 60 ans d'indépendance du pays, ces villes ont radicalement toujours voté contre le RPT et l'on se retrouve aujourd'hui avec un renversement de situation qui profite à UNIR et à ses alliés.
Alors justement, comme elle le dit elle-même, l'opposition togolaise, qui par ailleurs fustige une mascarade électorale, doit-elle se réinventer après sa débâcle, surtout en lien avec ce nouveau régime parlementaire désormais en place?
Moi, je crois que l'opposition togolaise gagnerait véritablement à pratiquer une introspection et à réaliser à quel point elle est en déphasage probablement avec la réalité du terrain, parce que l'on se retrouve aujourd'hui avec le Grand Lomé qui tombe dans l'escarcelle de UNIR, avec Anéro qui tombe dans l'escarcelle, et je ne remonte pas dans les régions des plateaux ou du centre, qui sont également des chefs qui sont restés entre les mains de la majorité. Cela signifie simplement que au-delà de consolider sa base, son fief électoral, UNIR est allé grignoter dans le fief de ce qui représentait la base électorale des partis d'opposition. C'est-à-dire qu'il y a eu une déception quelque part.
Le journaliste Louis Magloire Kemayou, directeur de la chaîne de télévision New World Economy au Togo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé. Sur 102.3 FM.
Au Mali, après les consultations locales, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a donné le coup d'envoi hier à Bamako à la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, avec pour but de produire, sans intervention étrangère, des solutions pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis des années. Le dialogue, qui doit s'achever ce vendredi, est boycotté toutefois par une grande partie de ce qui reste de l'opposition. Modibo Dembélé de la rédaction Bambara de VO Afrique a recueilli la réaction de Sékou Berté, l'ambassadeur du Mali, ici à Washington.
C'est une occasion donnée à tout et chacun, à chaque Malien et chaque Malien, de venir s'exprimer sur l'avenir du pays. Donc c'est pourquoi le gouvernement, à travers les plusieurs autorités, ont décidé d'organiser ces dialogues qu'ils ont appelés dialogues intermaliens pour débattre de toutes les questions intéressant la nation. Toutes les questions qui vont intéresser l'avenir et le présent de la nation malienne sont à décider au cours et sont à débattre au cours de ce dialogue. Donc vraiment pour moi, pour l'instant quand même, c'est un sentiment de fierté vu le nombre de personnes dans la salle et en ligne en train de nous suivre. Donc ça veut dire que chacun, où qu'il soit, vraiment est intéressé par ce dialogue.
Et quel message avez-vous pour les Maliens de la diaspora par rapport à ce dialogue intermalien?
Le message que j'ai à lancer à tout et chacun, c'est de prendre part activement à ce dialogue et de vider tous ceux qui sont sur eux à travers les 5 thématiques données par les autorités, à savoir paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, 2, questions politiques et institutionnelles, 3, économie et développement durable, 4, aspects sécuritaires et défense du territoire, 5, géopolitique et environnement international. Donc voilà les thématiques qui seront débattues et chacun où qu'il soit, vraiment est appelé à donner ses impressions, ses idées sur ces 5 thématiques pour qu'on ait une nation vraiment qui veut aller de l'avant, pour mettre en place, donner les ressources nécessaires pour aller de l'avant.
Sékou Berté, l'ambassadeur malien aux États-Unis.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En République démocratique du Congo, de nombreuses voix réclament justice pour les victimes du bombardement du camp de déplacés de Mugunga vendredi dernier. Une dizaine de personnes, dont des enfants, ont été tuées et des dizaines blessées dans l'attaque survenue à la périphérie de Goma où des combats opposent les troupes gouvernementales au mouvement rebelle M23. La diplomatie américaine accuse le Rwanda d'être à l'origine de ce bombardement meurtrier, une affirmation récusé par Kigali. Eddie Sango, adjointe à Goma, Regana Kimbali du Comité international de la Croix-Rouge.
Effectivement, il y a eu bombardement des mortiers au niveau des cas de Mugunga le vendredi 3 mai 2024. Et cette situation a créé une panique au niveau des camps parce que déjà notre structure chirurgicale au niveau de l'hôpital de Ndosho avait déjà reçu du coup une vingtaine de blessés. Malheureusement, parmi les blessés, il y avait 4 qui étaient arrivés déjà morts. Alors cette peur a fait assez que Yaï Mouvement a déjà décidé de se déplacer là, qui ne voulait plus rester dans les camps parce qu'il se sentait en insécurité. Il y a eu d'autres carrément qui ont décidé de quitter les camps de déplacés de Lushaga là pour se diriger vers Goma dans les zones où ils supposaient être en sécurité. Et du coup, d'autres n'ont pas pu retourner dans ces camps-là parce qu'ils avaient peur dire que la situation pouvait se répercuter. C'est ce qui a créé assez qu'il y ait un mouvement de déplacés au niveau des camps et c'est d'autres qui sont partis et quasiment la majorité était partie ces jours-là du camp par peur qu'il y ait encore des retombées des mortiers comme c'était arrivé.
Il y en a donc qui sont restés, mais dans quel état d'esprit vivent-ils?
Esprit de panique, esprit de peur, et ils ne savent même pas où aller, ils ne savent pas quoi faire, parce que s'ils ont été placés au niveau des camps, c'est parce que c'est une zone où ils supposaient être en sécurité. Ils ont été là, ce n'est pas parce qu'ils le voulaient, c'est parce qu'ils ont fui leur zone d'origine, faute compte tenu des combats. Et voilà, du coup, quand il y a de bombardements des mortiers au niveau du camp, ça crée une panique, ça crée la peur et ça fait assez que ces déplacés-là ne sont pas en sécurité. Carrément, d'autres ont décidé de ne plus retourner dans les camps parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Et ça leur met dans une condition compliquée, déplorable, où ils n'ont pas de famille, ils doivent chercher où avoir un abri sécurisé, ils doivent voir comment se nourrir et ça a créé une situation très complexe pour certains jusqu'à présent.
Ce n'est pas le seul endroit où, ni la première fois où les bombes sont lancées dans des camps de déplacés. Hein.
Oui, ce n'est pas la première fois. Ça fait déjà 3 ou 4 fois, d'ailleurs aux alentours de Mugunga. Mais vraiment, ces derniers cas étaient les cas les plus frappants. Parce que déjà, imaginez qu'à nous, au niveau, avec notre équipe chirurgicale du CICR, on a pu, du coup, le même jour, avoir 20aine de personnes blessées. C'est que c'était quand même parmi les situations un peu plus complexes par rapport aux autres qui étaient arrivés auparavant. Et il y a eu d'autres sources gouvernementales qui parlent de 14 morts et tout.
Regan Kimbale, responsable de la communication du CICR à Goma. Un récent sondage Ipsos indique que les menaces qui pèsent sur la démocratie sont devenues la principale préoccupation des électeurs américains, dépassant l'économie et l'immigration. Véronica Baldiras-Iglesias de la VOA nous en dit davantage. Gabi Dorsil raconte.
Lorsqu'ils se sont présentés aux urnes en mars, les électeurs démocrates et républicains inscrits en Arizona ont clairement indiqué leur préférence comme porte-étendard de leur parti le 5 novembre. Howard Webster a voté à Phoenix.
Je pense que Joe Biden est le seul candidat qui nous offre la liberté, la démocratie, la liberté pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui votent pour lui.
Nicolas Pella est un autre électeur de l'Arizona.
J'ai voté pour Donald Trump. Je crois qu'il est le seul à vouloir défendre la Constitution telle qu'elle a été écrite et il est le seul à être attaqué par tous les autres pour cette raison.
L'extrémisme politique et les menaces qui pèsent sur la démocratie sont les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les États-Unis, selon les électeurs interrogés par Ipsos à la mi-avril. Les démocrates s'inquiètent de l'autoritarisme, selon Clifford Young, président d'Ipsos Public Affairs.
En réalité, les démocrates, lorsqu'ils disent qu'ils sauvent la démocratie, disent en fait qu'ils sauvent la démocratie de Trump. Nous appelons cela le vote anti-Trump et d'après nos estimations, il représente environ 25% de la population adulte.
Les indépendants partagent les préoccupations des démocrates, mais les républicains voient la protection de la démocratie d'un autre œil. De nouveau, Clifford Young, d'Ipsos.
La plupart des critiques formulées par la droite républicaine portent sur un système défaillant, un système contrôlé par les élites ou truqué par des élites. En fin de compte, lorsque les républicains parlent de sauver la démocratie, ils parlent en fait de la machinerie électorale et de l'équité des élections en général.
Trump lui-même a insufflé un sentiment d'urgence à ses partisans.
Si nous ne gagnons pas le 5 novembre, je pense que notre pays cessera d'exister. Ce pourrait être la dernière élection que nous n'ayons jamais eue. Je le pense vraiment.
Dans sa tentative de réélection, le président Joe Biden met également en garde contre les risques qu'il voit dans le retour de Trump à la Maison-Blanche.
Notre démocratie est vraiment en danger. Quand il parle d'être un dictateur dans le premier jour, il veut dire être capable de nier des éléments de la Constitution.
Les sondages ne sont que des instantanés, il est vrai, mais 38% des électeurs interrogés par Ipsos pensent que Biden a un meilleur plan pour faire face aux menaces qui pèsent sur la démocratie, contre 29% en faveur de Trump, dit Clifford Young.
Biden est un candidat de l'establishment. Il est une créature de l'establishment. Il est perçu comme l'ordre et la stabilité. Trump, plus spécifiquement, représente en quelque sorte cette rupture avec l'establishment.
Après la protection de la démocratie elle-même, les électeurs interrogés ont placé l'économie et l'immigration au premier rang de leurs préoccupations avant les élections générales.
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 7 mai 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir. Take care.